Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
Et bonjour, bienvenue dans Ça commence par nous sur Rage. Si vous vous demandez comment agir au quotidien pour préserver l'environnement et construire un monde meilleur, alors vous êtes au bon endroit. Et oui, hein, dans Ça commence par nous, nous faisons notre maximum pour vous donner le plus de solutions concrètes et accessibles. Pour mettre quoi ? Ben pour mettre plus de verre dans notre quotidien. Et aujourd'hui, l'émission est un peu spéciale puisque nous sommes sortis de notre studio d'enregistrement pour poser nos micros à la recyclerie. La recyclerie, qu'est-ce que c'est ? C'est un tiers-lieu inspirant situé dans le nord de Paris. Pas de panique, on vous le présentera plus en détail dans un instant. Et pour aller plus loin, nous allons creuser aujourd'hui le sujet de nos modes de vie, notamment de notre ancrage local en matière d'alimentation. Nous savons aujourd'hui que c'est une hérésie de consommer des kiwis qui viennent de l'autre bout du monde, mais par où commencer si on va avoir dans notre assiette des produits qui viennent de notre région, circuit court, AMAP, coopérative d'achat. Qu'est-ce qui est vraiment vertueux, qui permet d'avoir une alimentation bonne pour notre planète, mais aussi bonne pour nos papilles. On n'est pas des Français pour rien. Heureusement, nos invités vont nous aider à y voir plus clair et ils nous présenteront des projets qui font bouger les choses dans le bon sens. Dans l'heure qui vient, nous recevrons Marion Bocahut qui nous présentera la recyclerie et Hélène Binet qui nous parlera de la ruche Kidiwi. Sur le plateau avec moi, il y a une deuxième Hélène, Hélène que vous connaissez tous, Hélène Dédény qui nous parlera de Zero Waste et Mélanie qui nous parlera du bon plan de One Art. Mais ça, c'est tout à l'heure. Allez, c'est parti pour cette nouvelle émission de Ça commence par nous.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par nous.
Et aujourd'hui dans Ça commence par nous, on est plus local que jamais, plus local, plus locaux que jamais. Nous ne sommes plus locaux que jamais et on accueille tout de suite Marion Bocahut de la recyclerie. Bonjour Marion.
Bonjour.
Marion, on t'a déjà eu dans cette émission, tu te souviens, c'était pour nous parler de l'atelier de René. Aujourd'hui, ouais. On va parler plus généralement de la recyclerie. Et moi, pour commencer, je tenais à te remercier de nous accueillir dans cet endroit absolument formidable. Moi, je suis hyper, hyper, hyper heureux de faire cette émission chez vous. Voilà,
et on est heureux de vous recevoir aussi.
Alors, effectivement, la recyclerie, ce n'est pas qu'un atelier, qu'un repair café, c'est plein d'autres choses. Est-ce que tu peux présenter le concept pour ces personnes qui ne sont encore jamais venues à la recyclerie ?
Oui, tout à fait. Donc la recyclerie, c'est une ancienne gare de la Petite Ceinture qu'on définit comme un tiers-lieu, c'est-à-dire que c'est un endroit où se superposent plusieurs activités et plusieurs publics. Donc on avait parlé ensemble de l'atelier de réparation dans lequel on répare, on bricole, on lutte contre l'obsolescence programmée. La recyclerie, c'est aussi une ferme urbaine et une programmation d'événements inspirants où on parle des grandes thématiques du développement durable, de l'écologie. Et c'est aussi un café-cantine qui suit les valeurs de la recyclerie. On va sûrement en parler vu qu'on parle d'alimentation aujourd'hui.
Et ça cartonne, non ? J'ai l'impression qu'on en entend parler de partout. La dernière fois que je suis venu, il y avait Cyril Dion qui était en train d'enregistrer avec Anne Hidalgo le documentaire qui fait suite à Demain. Ensuite, j'ai vu passer une vidéo brute qui vient de dépasser là, les 3 millions de vues sur les réseaux sociaux. On n'entend parler que de vous.
On entend pas mal parler de nous, mais c'est, je pense aussi parce qu'on aborde plein de sujets différents et qu'on reçoit des personnalités hyper inspirantes et variées et qu'on reçoit aussi des publics différents qui du coup échangent et se rencontrent à la recyclerie autour de thématiques. En ce moment, on parle d'alimentation au printemps à la recyclerie, mais on parle de plein d'autres sujets. Donc on parle de nous parce qu'on a aussi différents angles d'attaque pour parler de nous.
Oui, ces angles d'attaque, tu parlais du printemps parce qu'en fait, vous avez à chaque saison une nouvelle thématique. En hiver, c'était la consommation collaborative.
La société collaborative. Comment consommer de manière collaborative dans notre société. En effet, cette année, on s'est lancé les paris de la recyclerie et du coup, chaque saison, on aborde une grande thématique pour avoir le temps de l'aborder sous différents angles et avec des personnalités différentes. Et donc, au printemps, on parle d'alimentation plus responsable avec plein d'événements, des conférences, des rencontres, des ateliers, des projections, où pendant 3 mois, on est un véritable centre de ressources pour donner aux personnes qui viennent à la recyclerie les moyens, des astuces, concrètement, comment on fait pour changer d'alimentation et aller vers une alimentation plus responsable au quotidien.
Ouais, c'est ça, la recyclerie, c'est très pédagogique, c'est beaucoup par l'exemple. si tu devais nous citer comme ça quelques valeurs clés sur lesquelles vous avez fondé votre concept, quelles seraient-elles ?
Alors, les valeurs clés, c'est l'écologie, le développement durable de manière très générale, mais de manière plus précise, la réduction des déchets et leur valorisation, les circuits courts, l'économie circulaire, l'agriculture urbaine innovante, l'alimentation responsable, le lien social aussi de manière générale.
Tous ces trucs hyper chiants qu'on nous rabâche depuis des dizaines et des dizaines d'années.
Ouais, mais justement, chez nous, c'est pas chiant. C'est
mais non, c'est pas
positif.
Chiant. Et surtout, c'est hyper cool quand on rentre à la recyclerie, finalement, si on se pose même pas ces questions-là, j'ai envie de dire, c'est pas peu importe, mais presque.
Ouais, tout à
fait. Puisque c'est un endroit beau. C'est un endroit où on y mange bien, c'est un endroit où on s'y plaît, où on écoute de la bonne musique, où il y a plein d'événements passionnants. Mm. Finalement, c'est ça qui est génial. C'est que la toile de fond a du sens. Mm. Mais vous avez fait tout en sorte pour le faire de belle manière.
On voulait, déjà, on est dans un lieu d'exception, ça aide beaucoup, dans une ancienne gare très esthétique, et on voulait faire ça de manière positive, ludique et pédagogique, ne pas s'auto-flageller en donnant des leçons à tout le monde, mais plutôt écouter de la musique, boire et manger des bonnes choses, et parler, se rencontrer des personnes différentes, plus ou moins sensibilisées à ces valeurs-là. Comme tu le disais, l'idée, c'est pas d'avoir que des gens qui sont déjà engagés, mais d'avoir des gens qui viennent là, ils savent même pas de quoi on parle, et puis en buvant une bière, ils se rendent compte sur le panneau qu'il se passe ce genre d'événement qu'on reçoit aujourd'hui, et du coup ils vont peut-être revenir, ou ils vont en entendre parler d'une autre manière par une autre personne.
Ouais, finalement c'est beaucoup d'ancrage local, hein, j'ai l'impression. Il y a une vie de quartier, vous sentez que vous avez réussi à prendre votre place et à... Je ne sais pas si le bon mot, c'est regrouper les acteurs du coin, mais en tout cas, les fédérer ou leur donner une visibilité qu'ils n'avaient pas avant.
Alors, on est dans un quartier assez mixte qui bouge pas mal ces derniers temps. Il y a pas mal d'initiatives dans le 18e. Vous trouverez d'ailleurs sur notre terrasse une carte qui s'appelle les éco-optimistes du 18e, qui a été obsolète au moment même où on l'a imprimée, hein, tellement il se passe de choses, des nouvelles choses tous les jours. Mais on a fait cette carte justement pour montrer tous les acteurs de cet écosystème et montrer que quand on lève la tête, il y a beaucoup de choses qui se passent, et fédérer cet écosystème de quartier en se disant, bah voilà, on est tous là, on fait tous partie de ce quartier hyper mixte, avec des gens engagés, il y a un côté un peu village, avec des gens qui veulent faire des choses, qui s'engagent, donc profitons-en.
On est dans un tiers-lieu, un écolieu, mais il y a quand même l'essentiel de l'activité qui se joue autour de la cuisine, autour de l'alimentation, autour des boissons.
Oui.
Quelle est votre démarche par rapport à ça ?
Alors déjà, la démarche, le café-restaurant, c'est très important pour nous parce que c'est la base de notre fonctionnement économique. La recyclerie, c'est un café-restaurant dont les bénéfices financent en grande partie l'association des amis recycleurs qui porte le projet de la recyclerie. Donc sans notre café-restaurant, il n'y a pas de recyclerie. Donc ça, c'est très important. C'est un café-restaurant qui est ouvert 7 jours sur 7, qui fait à peu près 200 couverts par jour, qui reçoit beaucoup de monde. On fait à peu près 700 brunchs par week-end. Donc c'est des choses qui... Voilà, c'est très dense, il y a beaucoup de monde. Et en plus, c'est un café-cantine qui est dans la lignée des valeurs de la recyclerie et qui nous permet aussi d'affirmer nos valeurs et d'expérimenter de nouvelles choses, puisque la recyclerie est un lieu d'expérimentation. Et en termes d'alimentation, on essaye d'avoir tous les jours un peu plus de bonnes résolutions à la recyclerie, avec par exemple un jour par semaine sans viande. Donc notre jeudi est 100% végie, où on propose une carte avec 10-15 plats sans viande. Notre propos, c'est de ne pas être un lieu végétarien, mais de dire, si déjà chacun d'entre nous arrêtons de manger de la viande une fois par semaine, c'est déjà un premier pas. On a par exemple aussi un brunch vegan une fois par mois, on a une formule locavore, on a des boissons bio, on a le plus possible de produits, déjà on a un menu de saison, et puis on a des produits qui sont soit locaux, soit bio, soit agriculture raisonnée. On essaye aussi d'avoir toujours une carte accessible en termes de prix, donc on jongle un peu avec tout ça. C'est pas tout, mais c'est déjà pas mal.
Comment sont choisies justement cette carte ? Enfin, est-ce que vous vous réunissez justement ? Quel est l'apport de l'association par rapport à la définition de cette carte et
de
comment
la carte
on va
de la cuisine.
Exactement, puisque c'est par là que passent beaucoup de vos valeurs et de ce que vous essayez de, de diffuser aux clients qui viennent ici.
Alors ça, c'est quelque chose qui est mis en place par notre équipe. On décide de faire une formule locavore, on décide de faire un jeudi veggie ou un brunch vegan. Et ensuite, on implique toute l'équipe de la cuisine, le chef qui du coup n'est pas un chef vegan, mais qui va se dire, ah bah tiens, je vais développer une carte de brunch vegan, je vais développer mes fournisseurs locaux, je vais travailler des légumes de saison, je vais peut-être travailler avec la ferme urbaine et notre potager pour du coup bah, cultiver telle variété de légumes anciens, parce que ça, c'est fragile et que ça demande beaucoup d'entretien. Et qu'on ne cultive pas de pommes de terre dans notre potager, hein, ça ne sert à rien, mais par contre des fleurs comestibles ou des plantes aromatiques.
Et ça marche ? Et ça marche ou c'est plutôt une question pédagogique, on va dire, vous faites le jeudi végétarien, vegan, pour habituer les gens, mais en fait, il n'y a personne qui vient.
Alors, au début, ça a été un peu... on a un peu désorienté les gens. Il y en a certains qui s'arrêtaient à ça. Et puis après, il y a tout un travail pédagogique derrière de « oui, c'est végétarien, mais regardez ». On essaye aussi d'innover. On fait un taux fish and chips. On fait... franchement, la carte végétarienne, elle est super bonne. Le burger végétarien, moi, je le trouve 10 fois meilleur que notre burger avec de la viande. Parce que, bah, en plus, c'est un peu original. Et puis, on peut s'amuser dans la petite galette de légumes qu'on fait à la place du bœuf. Donc, aujourd'hui...
Il faut déconstruire les a priori, c'est ça ?
Exactement. Et je pense qu'on a certaines personnes qui avaient vraiment envie de leur entrecôte et qui font demi-tour. Et puis, on en a la plupart qui se disent, ah bah ok, on va tester. Voilà. Et
parce que vraiment, si vous dites que si vous faisiez une carte 100% végétarienne en disant, bah, on a envie justement de faire venir les gens vers une alimentation plus éco-responsable et donc forcément végétarienne, même végétalienne, finalement, vous dites, vous pensez vraiment que le parti pris, alors que tous les restaurants véganes explose à Paris et que ça devient vraiment les gens pour leur santé, pas forcément ni pour l'écologie ni pour l'éthique, mais parfois même juste pour des soucis de santé, montrent leur intérêt et leur attrait vers cette nouvelle cuisine qui en plus, comme tu le dis, a de nouvelles saveurs à nous faire découvrir. Pourquoi pas une carte à ce moment-là 100% végétarienne qui du coup perturberait peut-être moins les clients en se disant « Ah bah zut, le jeudi je savais pas que c'était différent de tous les autres jours, bah là au moins ce serait tout le temps ».
Eh ben, c'est une volonté de notre part de nous adresser au public le plus large possible et de pouvoir satisfaire aussi les personnes qui veulent manger de la viande, les personnes qui ne veulent pas en manger. On a toujours, au-delà du jeudi ou du brunch vegan, une proposition végétalienne à la carte et végétarienne. C'est-à-dire que même si vous venez tous les autres jours que le jeudi, vous avez au moins 3 ou 5 plats végétariens. Mais justement, on veut pas forcément être extrémiste, pas dans le sens philosophique du terme, mais on veut pas être tout ou rien, on veut pas être noir ou blanc. On veut justement pouvoir s'adresser à tout le monde et dire c'est peut-être un peu radical de passer d'un coup 100% végétarien pour les personnes qui sont peut-être moins sensibles à quel est l'impact d'être végétarien ou de manger moins de viande pour l'environnement. Ces personnes-là, peut-être qu'ils vont venir à la recyclerie parce qu'ils voulaient manger un burger avec de la viande, mais que la prochaine fois qu'ils reviendront à jeudi, ils vont goûter le burger végétarien, ils vont comprendre pourquoi on fait cette démarche-là. Et petit à petit, nous, on pense que le message passera peut-être mieux, je sais pas, mais en tout cas on a envie de le faire passer de cette manière-là.
On attire les gens, hein, c'est pas bête, n'empêche d'avoir le côté on attire les gens avec plein de choses, peut-être des repères qu'ils connaissent, et puis après au détour d'une conférence, au détour d'un atelier, au détour de plein de d'autres choses leur proposer des solutions pour leur montrer qu'on fait différemment. On essayait en plein dans le vif du sujet, on y voit plus clair sur ce lieu dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous avons pour rappel, si vous arrivez en cours d'émission, vous entendez des bing, des bang, des portes qui claquent, on est bien à la recyclerie. Et c'est parti, on parle d'alimentation locale. Merci Marion pour cette première introduction, on te retrouve tout à l'heure et bien entendu, si vous cherchez des informations sur la recyclerie, moi je vous invite, pour tous les petits curieux qui ont l'oreille à se dire mais attends, ça a l'air génial ce lieu, c'est larecyclerie.com et nous on vous donnera bien évidemment toutes les informations sur le groupe Facebook de Ça commence par nous. Allez, tout de suite on se fait une première pause musicale.
La nuit je crois en mes rêves. Notre jour se lève. La nuit, je crois en mes rêves. Demain, notre jour se lève. J'en sais rien si tout est prévu. Est-ce la fin ou le début? J'ai besoin de toi, de serrer plein de fois. En haut y'a quoi? Si demain tu pars, je pars avec toi. La nuit je crois.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par nous.
Et de retour dans l'émission Ça commence par nous, on est à la recyclerie Porte de Clignancourt. Ici, on change le monde tous les jours un petit peu plus. C'est simple, positif et concret. C'est tous les samedis de 13h à 14h sur Rage. Aujourd'hui, on parle d'alimentation locale.
Ça commence par nous.
Et comme je vous le disais aujourd'hui, on est dans du local, on est dans du concret. On accueille tout de suite Hélène Binet qui vient nous présenter la ruche qui dit oui. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Je disais en introduction de cette émission que dès qu'il s'agit d'alimentation en France, hein, ça devient très vite compliqué de démêler ce qui tient du bon coup de com et de la vraie pratique vertueuse. Circuit court en plus, AMAP, coopérative d'achat, il y a plein de choses dont on entend parler et tout se mélange. Quelle est la différence entre tous ces concepts et où se situe exactement la ruche qui dit oui?
Alors, la ruche qui dit oui, je vais commencer par ça. Hein, donc c'est une initiative qui a été créée en 2011. Sur un constat très simple, en fait, que les consommateurs mangeaient de moins en moins bien. On voit bien tous les cas d'obésité, etc., des maladies liées à l'alimentation. Et que de l'autre côté, les producteurs étaient de moins en moins bien payés, puisqu'il faut savoir que le salaire moyen d'un agriculteur, c'est moins de 350 euros pour un agriculteur sur trois. Donc on s'est dit, bon, bah, voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, en fait, pour remettre les choses dans le bon sens? Donc on s'est dit, il faut faire se rencontrer ceux qui mangent et ceux qui produisent. Et pour les faire se rencontrer plus facilement, on était en 2011, utilisons le numérique. Voilà, donc on a créé des outils numériques en fait, pour que les gens puissent reprendre en main leur alimentation et créer leur propre système de distribution. Donc concrètement, une ruche qui dit oui, c'est un marché éphémère qui se tient dans différents lieux, donc à la recyclerie ce soir par exemple, et pour lequel les gens donc, vont commander à l'avance auprès de producteurs locaux qui se trouvent à moins de 250 km du lieu de distribution. Donc la ruche qui dit oui, c'est un circuit court, puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire en fait, entre le producteur et le consommateur. C'est un circuit court de proximité, puisque les producteurs se trouvent à moins de 250 km du lieu de distribution. Et c'est un circuit court juste, puisque les producteurs sont rémunérés dignement. Dans notre système, en fait, les producteurs reçoivent 83,3% du prix de vente.
Et
ça, c'est hyper important.
Les prix, c'est eux qui les fixent ou
Voilà, le producteur fixe le prix. C'est hyper important, parce que ça, c'est pas non plus qui est pratiqué partout. Il fixe aussi son minimum de commandes. C'est lui qui donne les règles du jeu. C'est-à-dire qu'il va dire, voilà, moi, je vais pouvoir me déplacer. Ce sera pour moi, ce sera rentable si je fais tel minimum de commandes. Et puis là, à ce moment-là, en fonction des commandes des clients, on voit si on atteint ce montant et si, à ce moment-là, la ruche a dit oui et le producteur vient livrer.
Donc, c'est le producteur qui a les clés du camion, j'ai l'impression.
Ouais, alors voilà, mais on essaie qu'ils mutualisent le camion aussi pour les déplacements.
Oui,
mais bon, c'est lui qui a les clés.
C'est une expression un peu mal placée.
Il a les règles, ouais, c'est lui qui tient les règles du jeu, quoi.
Et du côté du consommateur, comment ça se passe ?
Alors, pour le consommateur, en fait, c'est très simple et on veut que ce soit le plus simple possible. Le consommateur, en fait, rejoint une ruche. Donc, en fait, il peut regarder autour de chez lui. Il y a 850 ruches en France. Donc, il y en a dans les grandes villes.
J'en ai même vu à l'étranger, non ?
Il y en a à l'étranger aussi. Il y en a dans 9 pays européens, donc dans l'ouest de l'Europe. Donc, la personne qui a envie de manger mieux... Parce que c'est hyper bon, hein, la ruche qui dit oui. On en reparlera après, mais voilà. Elle va aller sur le site de la ruche qui dit oui, elle va rentrer son adresse, elle va voir les ruches qui sont autour, elle va se connecter à une ruche, et puis là, elle va précommander. Et le jour J, donc 2 jours avant, là pour la ruche du mercredi, donc ce soir à la recyclerie, les ventes s'arrêtent le lundi soir.
Ouais.
Et elle viendra donc ensuite chercher sa commande sur place, donc dans des lieux dédiés, donc dans des lieux très divers. Qui peuvent être des écoles, des espaces publics, mais aussi des lieux comme des cafés, on en a même dans des églises.
Donc ouais. Et donc du coup, c'est vraiment à l'initiative du consommateur. Il a une plateforme sur Internet où il voit tous les produits qu'il peut commander, ouais. Avec des minimums fixés potentiellement par les producteurs. Et au niveau du prix, est-ce que vous avez fait un peu une comparaison d'un panier moyen ? Est-ce que les consommateurs s'y retrouvent ? Est-ce que vous avez une idée de ça ?
Alors, en fait, ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend de ce qu'on compare. Voilà, bien si sûr. On prend un poulet industriel voilà, qui aurait été élevé aux hormones et qui aurait été élevé en cage. Et
comparant ce qui est
voilà.
Comparable.
Donc, si on compare
ce qui
est comparable, ouais, à qualité égale, on est à peu près dans les mêmes tarifs. On avait fait des fois des comparatifs entre supermarché et la ruche qui dit oui, on arrive à la même chose. Quoi.
Et donc, c'est la qualité, la grosse différence, c'est ce que vous disiez tout à l'heure ?
Oui, parce qu'en fait, nous, on travaille avec des producteurs, souvent des petits producteurs qui ont une production fermière et familiale donc qui ne produisent pas les choses du tout de la même manière aussi il faut savoir qu'à la ruche les producteurs, les maraîchers notamment souvent cueillent les produits le matin donc ils les apportent le soir donc on a une fraîcheur incroyable et puis ils sont assez créatifs donc ils vont aller puiser dans les variétés anciennes que ce soit des variétés potagères ou des variétés aussi des espèces animales voilà donc on arrive à des choses qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Ça, pour moi c'est un peu la meilleure épicerie en fait.
Et là pour boucler la boucle, on vous disait que tout à l'heure il y a des producteurs qui viennent livrer leur panier à la recyclerie, comment ça se
passe ? En fait, ils viennent pas vraiment livrer leur panier. La recyclerie, ça ressemble à un marché.
Ouais.
Donc en fait, ils viennent livrer leurs produits, ils s'installent. Donc là, vous verrez tout à l'heure, il y a des tables qui vont s'installer et puis ça ressemblera exactement à un marché. Mais les gens viendront ensuite récupérer leurs commandes sans échange d'achat d'argent puisqu'ils auront déjà payé en ligne.
Et donc du coup, il y a le lien avec le producteur qui se fait ou finalement les producteurs s'organisent et disent oh, tiens, j'y suis allé la semaine dernière, maintenant c'est toi.
Alors, un peu les deux. En fait, au début, le rêve de la ruche qui dit oui, c'était que les producteurs soient là à chaque fois. On avait une image assez bucolique de la chose. Et puis, en fait, on s'est rendu compte c'est que les producteurs, s'ils voulaient vivre des circuits courts, il fallait qu'ils soient dans entre 5 et 10 ruches. S'ils sont entre 5 et 10 ruches, qu'il leur prend 2 heures, en fait, ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout sur... voilà, ils font pas tout dans les champs. Donc, on a un peu évolué en 6 ans. On a créé des outils pour que les producteurs puissent se mutualiser entre eux, une espèce de blablacar de la logistique. Voilà. Et puis, à Paris, on travaille avec une petite plateforme pour le dernier kilomètre, pour faciliter, en fait...
Oui, parce qu'il y a ça aussi, rentrer dans les grandes villes, en fait, c'est une logistique particulière.
Ouais. C'est vraiment très galère, quoi. C'est plutôt une galère particulière, ouais.
Ouais, c'est ça.
Et est-ce que vous avez des liens avec d'autres AMAP ou est-ce qu'il y a des producteurs qui vous disent finalement, moi, je suis déjà dans une AMAP, qu'est-ce que va m'apporter la ruche par rapport à... alors qu'il y a 16% de ma production, de mon tarif, qui vont partir pour la logistique et pour l'organisation de la ruche par rapport à une AMAP où ils sont à 100%.
Une AMAP, rappelle-nous Hélène, une AMAP très
alors,
rapidement.
Une AMAP, c'est un peu le même fonctionnement que la ruche qui dit oui, ça va mettre en relation des producteurs et des consommateurs, mais c'est une association avec uniquement des bénévoles et non des salariés, donc ce sera 100% du tarif qui viendra aux producteurs, mais la très grande différence d'une AMAP, c'est qu'en fait on s'engage sur une année entière, c'est-à-dire qu'on dit bah, un producteur, et bah, moi pour te soutenir, je vais m'engager à acheter un panier par semaine, par exemple, pour 4 personnes, jusqu'à la fin de l'année, même si, de temps en temps, eh ben, voilà, y aura un changement climatique, il y aura un problème, et dans mon panier de la semaine, j'aurai que des pommes de terre, et la semaine d'après, ce sera un peu plus varié. Il y a vraiment cet engagement qui permet d'assurer une rémunération fixe et solidaire à l'agriculteur.
Alors nous, on souhaite pas du tout être exclusif, donc en fait, et on incite les producteurs qui sont à la Roche-Kidoui à être dans d'autres circuits de distribution, sinon ça nous semble assez dangereux. Donc beaucoup sont dans des AMAP, d'autres sont dans d'autres circuits courts, certains vendent à la ferme. Voilà, donc en quoi on est complémentaires ? Un maraîcher, par exemple, qui va travailler avec une AMAP, il doit s'engager à cultiver, je crois que c'est plus de 45 sortes de légumes et à fournir de manière régulière toute l'année, même si, évidemment, il y a ce contrat d'engagement qui fait que parfois les paniers sont plus maigres. Mais il peut arriver qu'il ait un surplus de production, par exemple. Donc à ce moment-là, c'est hyper intéressant qu'il soit à la ruche qui dit oui, parce que voilà. Donc en fait, c'est vachement bien d'être dans les deux, parce que ça permet d'ajuster.
C'est complémentaire, en fait.
Oui, c'est complémentaire. Mais de toute manière, les circuits courts sont globalement complémentaires. Et l'idéal, ça serait qu'un jour, ils puissent se mailler entre eux pour notamment cette fameuse logistique, et puis pour rendre ça encore plus accessible et encore plus développé, quoi.
Dernière question pour tous les auditeurs qui ont eu l'oreille un peu piquée par la ruche kiwi, qui ne connaissaient pas, s'ils veulent commander dès la semaine prochaine un panier, comment ils font ?
Alors, ils ne commandent pas un panier, ils commandent ce qu'ils veulent, oui, quand ils veulent. Voilà. Donc, s'ils veulent prendre seulement un kilo de carottes une semaine, ils peuvent. Ne rien prendre pendant 3 semaines, ils peuvent. D'accord. Et revenir avec...
Oui, je disais un panier, parce qu'en fait, c'était recevoir le petit panier à la fin, mais c'est vrai
que souvent, c'est important. Mais souvent, on mélange un peu les paniers déjà à tout près, quoi. Ben, c'est très simple, ils vont sur le site de laruchekidiwi.fr, et puis ils se connectent, ils regardent la ruche qui est la plus proche de chez eux, et puis ils font le pas, quoi.
D'accord, laruchekidiwi.fr, ok, ça marche. La ruche qui dit oui, s'écrit ruche comme ruche. Qui dit DIT et oui, OUI. Non, je précise parce que de temps en temps, on a des exubérances orthographiques. Après, on n'arrive pas bien à épeler ça sur Internet. Ben, merci Hélène pour cette présentation de la ruche qui dit oui. Pour rappel, les infos, elles sont toutes disponibles sur ce fameux site La Ruche qui dit oui. Nous, on vous partagera bien évidemment les informations sur le groupe Facebook de Ça commence par nous. Et tout de suite, on se refait une nouvelle pause musicale.
Faut laisser couler. Et puis... suffisamment acide, c'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Mangez-moi, c'est le chant des silos qui suffit, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception.
Il pleuvait beaucoup ce jour-là,
heureusement.
Et surtout des pochons solides. Là-bas les vaches nous regardaient d'un air complice et détendu. Il y avait plus qu'à s'y mettre pour assurer la cueillette.
Mangez-moi. C'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception.
Mangez-moi,
c'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception.
Oh, toi tu marches comme un canard, mais c'est pour mieux le voir. Oh putain, j'ai mal au dos, il faudrait un détecteur. Et sûrement qu'ils ont tout raflé. Ce coin-là, c'est sûr, il est connu.
écrasé, pourquoi ne pas me manger?
Un après-midi d'automne, on avait trouvé un moyen de locomotion. Alors on est parti à la cambrousse. Le champ était humide et suffisamment facile. C'était le bon moment pour aller cueillir les champignons. Mangez-moi, c'est le chant du silo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Gare à la descente, gare à la descente, gare à la descente.
Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
Et vous êtes de retour dans l'émission Ça commence par nous. Apparemment, l'alimentation locale, c'est bon pour la planète, c'est bon pour les papilles, mais c'est aussi bon pour les oreilles parce que ça a inspiré notre technicien Raphaël qui vient de se lâcher avec Mangez-moi. Merci à lui. Tout de suite, c'est le moment zéro déchet et je laisse le micro à Hélène, la fondatrice d'Edeni, le Zero Waste Positif. Salut Hélène.
Salut Julien.
De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Eh bien forcément d'impact local et de d'abord pourquoi consommer local ? Cette question, alors tout d'abord parce que nous avons la chance d'être en France, hein, pour la plupart de nos auditeurs, j'imagine, francophones, et donc d'être des privilégiés sur la qualité des produits qu'on peut trouver localement, puisque la plupart du temps, on a des labels pour nous repérer, on a des produits qui sont plutôt sains, écologiques, éthiques, on se retrouve rarement avec des rivières. Alors ça existe évidemment aussi des producteurs qui vont être peu scrupuleux, néanmoins, on a quand même plutôt de la chance, et puis de se retrouver avec des labels d'agriculture biologique dans lesquels on croit plutôt, contrairement à, vous savez, on a beaucoup écouté ces annonces et ces articles sur des bananes qui étaient faites, qui étaient produites dans des pays où finalement elles avaient le sceau d'agriculture biologique, mais elles contenaient beaucoup plus de pesticides qu'une banane non biologique faite sur nos îles de la Martinique ou de la Guadeloupe.
Puis en plus, il y a tellement de labels qu'on est un peu perdu, non ?
Exactement. Donc, il vaut mieux toujours faire confiance au local, à la personne qu'on connaît, avec qui on va pouvoir échanger. Et ça, c'est vraiment très important. Ensuite, pourquoi consommer local, outre ces produits qui sont davantage sains, écologiques et éthiques ? C'est surtout pour renforcer le tissu local, pouvoir échanger, faire partager notre passion, faire partager des belles choses de notre terroir, de notre artisanat, mais aussi de retrouver ce qui peut exister à deux pas de chez nous et qu'on n'avait pas forcément en tête. Par exemple, je suis persuadée qu'il y a plein de personnes qui découvrent la recyclerie dans le 18e et me disent « Oh, là, j'ai la chance d'avoir ça près de chez moi ». Et en fait, je prends toujours le métro pour aller à l'autre bout de Paris ou pour aller en banlieue travailler et finalement, j'oublie un petit peu ce qui se fait autour de chez moi. Et c'est exactement pareil pour les agriculteurs qui sont dans la Beauce, qui sont tout près de Paris et auxquels on ne pense pas forcément et on va toujours essayer d'aller consommer des choses beaucoup plus exotiques ou qui viennent de très loin parce que c'est un peu moins cher. Sauf que si c'est moins cher, c'est que forcément, il y a anguille sous roche, puisque le transport coûte très très cher aussi. Mmh. Il faut le savoir. Il coûte très cher en monnaie vraiment sonnante et trébuchante, mais il coûte aussi très cher en gaz carbonique, en émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on estime que c'est à peu près 13% de la production mondiale de gaz à effet de serre qui part dans les transports. Mmh. Alors c'est à peu près au même niveau, même on dit un tout petit peu moins que l'alimentation carnée. Animal, donc, avec tous les élevages. Donc, si vous voulez faire d'une pierre deux coups, eh ben, consommez local et consommez davantage végétal.
26% au moins, un quart, c'est ça.
Exactement.
Donc, au revoir le fameux kiwi de Nouvelle-Zélande.
Alors, au revoir le kiwi de Nouvelle-Zélande, effectivement, pour les transports, puisque si c'est transporté dans un cargo, hein, dans ces fameux porte-containers, vous savez qu'un porte-container à l'arrêt, c'est déjà plus polluant qu'un million de voitures en marche diesel. Néanmoins, il y a certaines études, et alors là, je vous invite encore une fois, chers auditeurs et chères auditrices, à exprimer votre esprit critique, à vous renseigner, à en débattre, à communiquer autour de vous et à pouvoir inciter à l'État à faire davantage de recherches là-dessus. Parce que c'est vrai qu'on dit qu'au niveau des sols et de la situation de notre planète, finalement, l'agriculture biologique, même si elle viendrait d'un petit peu plus loin, eh ben elle permettrait d'avoir une meilleure planète qu'une agriculture ultra pesticide et toxique qui serait très proche. Et du coup, voilà, c'est vraiment des choses à prendre en compte, en tout cas à ne pas déblayer trop vite la question et se dire, bon, dans tous les cas, si ça vient de loin, c'est que c'est mauvais. Attention, ça dépend ce qu'on approche aussi. Si on habite à côté d'une usine qui renverse tous ces pesticides dans la rivière d'à côté, forcément, il vaut mieux aller voir des producteurs un peu plus...
Tu nous fais un super teasing pour l'émission de la semaine prochaine qui sera justement sur l'agriculture de demain.
Exactement.
Mais revenons au local.
Alors, du coup, pour le local, comment consommer local ? Eh bien, en exerçant son choix, en allant voir des commerçants, en discutant avec eux pour savoir d'où ils sont approvisionnés. Parce que c'est pas parce que vous allez chez dans votre marché local faire vos courses que forcément les produits, eux, seront locaux. D'où l'avantage des AMAP ou de systèmes comme la ruche qui dit oui. Très important de revendiquer aussi, de vous dire, bah non, moi, à deux choses à peu près égales, je préférerais être en local. Et pourquoi pas de tester aussi une monnaie complémentaire locale comme la Seine à Paris qui vous permet d'être sûr que votre argent et que la création de valeur que vous allez avoir par cette activité économique va renforcer un tissu vraiment local. Et qui dit local dit de plus grandes chances d'être zéro waste. Et ça, tu le sais, Julien, c'est un peu mon dada aussi, parce qu'une fois que tout a été optimisé, logiquement, on ne devrait plus avoir de déchets. Si on a un déchet, c'est que quelque part, les choses ont été mal pensées, mal faites, c'est un échec. Et du coup, quand vous allez récupérer votre panier à map, pensez à bien garder votre petit carton, même si c'est un sachet en craft, vous pourrez le réutiliser. C'est important de ne pas le jeter, ça représente beaucoup de litres d'eau, de pulpe, d'arbres aussi, voilà, et de chlore qui ont été utilisés. Pareil pour la ruche qui dit oui, pareil dans vos petits commerçants locaux. Toujours, prenez vos contenants avec vous et puis essayez d'avoir une réflexion globale. Comme disait Colline Serrault, nous avons un désordre global, mais des solutions locales. Et une multinationale ne pourra jamais avoir l'efficacité dont vous rêvez, sinon au contraire des franchises ou vraiment des acteurs qui s'emparent du problème au niveau local.
Merci Hélène. Je profite de ce dont tu viens de parler, là, notamment la monnaie locale complémentaire. Je donne la balle à Marion qui se ressaisit du micro. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'on peut désormais acquérir des pêches à la recyclerie.
Oui, ouais. En fait, ça fait 2 ans qu'on a la pêche à la recyclerie, mais c'était avant tout une monnaie locale de Montreuil qu'on a mis en place en 2016 pour notre programmation L'Europe des possibles. On avait reçu Rob Hopkins pour le mois de l'Angleterre qui nous avait présenté sa monnaie. Et à cette occasion, on avait accepté la pêche ici. Mais là, la pêche vient de s'élargir à Paris avec l'association Une Monnaie pour Paris. Donc, on peut payer en pêche à la recyclerie. On est aussi un comptoir d'échange, c'est-à-dire que vous pouvez à la recyclerie venir donner 20 euros pour avoir 20 pêches en échange et pouvoir ensuite payer. Alors ici à la recyclerie, que ce soit votre repas, votre boisson ou votre adhésion à notre association en pêche. Et ailleurs dans le quartier, on espère de plus en plus de commerçants qui vont accepter la pêche.
Tu en connais déjà qui sont autour de la recyclerie ?
Autour de la recyclerie, pas encore. Donc c'est ça aussi qu'on espère que va apporter l'élargissement à tout Paris, quoi, d'avoir de plus en plus de commerçants.
Il y en a de plus en plus en province aussi, ouais, hein, tous ceux qui nous écoutent là, qui sont pas à Paris. Au contraire, ça fonctionne même encore davantage en province pour le moment qu'à Paris, puisqu'on est plutôt en retard là-dessus, comme tu disais. La pêche vient juste de s'élargir assez récemment,
oui,
alors qu'à Nantes,
de Montreuil à la base. Et on parle de zéro waste, ça c'est quelque chose auquel vous êtes sensible, vous, à la recyclerie ? Est-ce qu'il y a des petits gestes que vous mettez en place au quotidien pour réduire vos déchets au maximum ?
À la recyclerie, on est très sensible à la réduction des déchets. On essaye de faire en sorte que de ne pas produire le déchet, et puis quand on le produit, de le valoriser. À la recyclerie, on a un compost dans notre centre de tri. Quand vous Vous avez mangé votre menu végétarien du jeudi, vous allez au centre de tri et puis soit vous prenez un doggy bag parce qu'on a encore des portions assez généreuses à la recyclerie mais on y travaille, soit vous donnez vos restes aux poules, au compost ou aux ordures ménagères, à la dernière poubelle. Et puis vous pouvez, si vous êtes adhérent de l'association, valoriser vos déchets organiques à la recyclerie, vos épluchures de légumes à la maison, vous nous les amenez. Et puis après, sur des petits détails, ça va être fournir des bocaux si vous voulez passer au vrac. Voilà, on accompagne un
le
peu
pain,
dans ce mouvement.
Le pain rassis qui est conservé.
Le gâchis-mètre.
Hein. Il y a, tout à l'heure, j'ai commandé à boire, il n'y avait pas de paille. C'est des petits détails hein, comme ça. Pareil pour le sucre qui est dans un bocal. Il y a plein de petits gestes comme ça qui font la différence. Hélène, du côté de la ruche qui dit oui, est-ce que vous avez une action particulièrement proactive en ce qui concerne le zéro déchet? Est-ce que vous avez même un cadre que vous soumettez à vos producteurs au moment des livraisons, ou ça, c'est encore un chantier sur lequel vous devez travailler?
Alors nous, en termes de zéro déchet, on n'est pas mauvais. Enfin, d'un côté, on n'est pas mauvais en termes de production, puisqu'en fait, les producteurs apportent que ce qui a été commandé, donc il n'y a absolument aucun gâchis.
Pas de gâchis alimentaire.
Ce qui est vraiment très différent des supermarchés ou des marchés, puisque voilà, un tiers de la nourriture en France est jetée sans être même consommée. Donc voilà, donc ça, nous, ils arrivent, leur camion arrive à plein et repartent à vide. Donc là-dessus. Il y a absolument zéro déchet. Ensuite, là où on est moins bon, mais ça dépend des ruches en fait, c'est que les producteurs, pour simplifier, en fait préparent, par exemple, si ils ont 50 kilos de patates commandées, ils vont faire 50 petits sachets, puisque voilà. Alors après,
qui vont mettre dans un autre sachet.
Ouais, après, les membres en fait, ils prennent les sachets, ils les remettent dans leur sac, ils nous donnent les sachets et puis les producteurs les récupèrent. Il y a des ruches qui ont fait des ateliers aussi pour faire des sacs réutilisables, donc en couture pour avoir deux jeux pour les producteurs. Voilà, donc là-dessus, on doit encore s'améliorer parce que. On n'est pas du tout zéro déchet, voilà. Mais il y a des ruches qui le sont, mais au niveau global, on ne l'est pas encore. Quoi.
Encore un peu de travail. Je suis sûr que en off, Hélène vous donnera plein de bonnes idées. Nous, on en profite justement pour avoir un petit moment de off, puisqu'on se fait une nouvelle pause musicale et on revient tout juste après avec Mélanie, qui est toujours là avec nous et qui nous partagera le bon plan de One Art.
Chez nous dans notre lit, je les vois flous. Et quand je rêve, je touche la terre qu'ils foulent de leurs pieds toute la journée. M'entends-tu sortir, m'écoutes-tu revenir? Qui sont ces gens qui rentrent chez nous dans notre lit? Je les vois flous. Et quand je rêve, je touche la terre qu'ils foulent de leurs pieds toute la journée. M'entends-tu sortir, m'écoutes-tu revenir?
C'est un bien joli moi.
Ça commence par 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 nous.
Eh oui, ça commence par nous pour changer le monde. Et c'est Mélanie qui va nous partager le bon plan du média positif One Art. Salut Mélanie, ça fait longtemps.
Salut Julien. Hello les amis. Donc moi cette semaine, j'ai le plaisir de vous parler de Au bout du champ. Un lieu qui, comme son nom l'indique, nous fait profiter de produits de qualité récoltés directement auprès des producteurs. Donc vous retrouvez des produits qui sont fraîchement récoltés dans votre assiette en moins de 24 heures. C'est énorme.
C'est énorme. C'est énorme. C'est là où je fais les courses une fois par semaine quasiment. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas, tu nous expliques un peu le concept ?
Alors il y a un seul mot à retenir, c'est circuit court. En effet, les fruits et légumes que propose Au bout du champ, ils sont cultivés à moins de 100 km, donc à Paris, en région parisienne. Donc zéro intermédiaire entre le producteur et le consommateur, et du coup, moins d'empreinte carbone.
Qui a eu l'idée ?
Alors ce sont deux amis, Joseph et Julien, qui autour d'une discussion, ils se sont aperçus en fait qu'il était difficile de trouver des produits frais à Paris, et donc ils ont décidé de se lancer dans l'aventure en créant Au bout du champ.
C'est rigolo parce qu'à chaque fois que je pose qui a eu cette idée comme question, souvent tu dis mais c'est deux amis, c'est trois amis, c'est des amis qui lancent un peu les projets que vous mettez en avant dans les One Art Spot. Et donc du coup, allez, trêve de bavardage, comment ça se passe concrètement ?
Donc chaque jour, les équipes de Au bout du champ se rendent directement chez les producteurs qui récoltent le matin très tôt. Donc eux, ils se rendent chez ces producteurs et collectent les fruits et légumes qui ont été récoltés très tôt le matin avant de les livrer en boutique en début d'après-midi. Donc Au bout du champ, respecte la saisonnalité des produits, c'est la raison pour laquelle ils sont très savoureux.
Très savoureux.
Et donc Anne-Sophie, que vous connaissez déjà, elle va y faire ses courses régulièrement. Et ce qu'elle me disait, elle apprécie vraiment le côté brut, sans chichi. Quand elle fait ses courses, elle voit des recettes qui sont accrochées à côté des produits pour vous indiquer comment cuisiner les aliments. Elle me dit également qu'elle trouve des produits qui sont très rares, comme du pissenlit. Et donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'Au bout du champ met en avant des produits qui sont peu communs et vous aident en fait à les cuisiner. Et donc pour les plus curieux, vous pouvez aussi retrouver sur leur site des actualités sur certains produits. Notamment en ce moment, il y a une actualité sur l'asperge, le légume tant attendu du printemps. Et vous pourrez savoir qui l'a produit, donc c'est Pierre-Louis en Seine-et-Marne, la manière dont elle est produite et même les vertus pour la santé.
Et justement, ces producteurs, c'est du bio, c'est du raisonné, c'est comment ça marche ?
Donc Au bout du champ, ils collaborent avec plus de 25 producteurs. Donc si vous allez faire un tour sur leur site, vous verrez les visages de ces hommes et ces femmes qui cultivent les produits de qualité que vous retrouvez dans vos assiettes. Et pour que ce soit plus humain, comme je vous le disais, quand vous allez faire vos courses Au bout du champ, vous retrouvez un petit écriteau avec leur nom écrit dessus. Donc vous savez exactement d'où viennent vos produits.
Et comment ils sont choisis, ces produits ?
Alors, c'est plutôt les producteurs, comment est-ce qu'ils sont sélectionnés. C'est surtout par du bouche à oreille, par recommandation de producteurs aux équipes Au bout du champ. Et donc, voilà, ils prennent contact avec eux, ils vont sur le terrain, ils se renseignent. Donc, vous retrouvez plusieurs produits, mais des produits respectueux de l'environnement, issus de l'agriculture paysanne, de l'agriculture raisonnée ou en bio également.
Et donc, du coup, pourquoi particulièrement faire ses courses chez Au bout du champ ? C'est quoi ton plan, toi ?
Quand vous faites vos courses Au bout du champ, vous savez exactement d'où viennent vos produits, vous contribuez à un mode de consommation durable et vous permettez également aux producteurs de vivre décemment de leur travail. En effet, ces derniers, ils ont un juste pourcentage sur tous les produits qui sont vendus. Donc ça, c'est hyper important. Et vous pouvez les retrouver dans 6 points de vente, 5 à Paris et 1 à Levallois-Perret. Et en ce moment, ça tombe bien, vu qu'on fait une émission sur l'alimentation durable, une très bonne nouvelle, c'est qu'il y a un nouveau lieu qui ouvre très bientôt dans le 14e arrondissement à Paris, précisément. C'est la rue Raymond Losserand, qui sera ouvert 7 jours sur 7 à tous. Et il faut savoir que vous pourrez faire vos courses sans abonnement, ce qui est un peu... il y a plusieurs lieux qui demandent à s'abonner, et donc là, c'est pas le cas. Et vous pouvez également retrouver toutes les infos sur oneart.fr.
Merci Mélanie pour ton bon plan. Moi, ça fait un an que tu m'as convaincu, puisque j'y suis souvent là-bas. C'est tout en vrac, c'est des super produits. Quand on vient en plus avec nos sacs, ils nous font souvent une ristourne. Les gens sont adorables. C'est vraiment un bon plan. Il y en a un pas très loin d'ici, hein, si je dis pas de bêtises, à côté de la rue du Mont-Cenis. C'est vraiment 5 minutes à pied. Il y a un dernier chiffre sur lequel je voulais qu'on rebondisse. J'ai vu les résultats d'une étude britannique qui disait que finalement, si on dépasse 6,7 km, c'était bien plus rentable d'avoir des livraisons de produits plutôt que d'avoir tous les clients qui vont acheter leurs aliments directement chez le producteur, par exemple, en se déplaçant. Est-ce que ça, vous étiez sensible à ça ? Typiquement, au bout du champ, on est en plein dedans, puisque finalement, le fait qu'il soit organisé, ça permet de beaucoup, beaucoup réduire les transports. Et puis après, le dernier kilomètre se fait à vélo, se fait à pied, se fait en transport en commun. Je te vois dire oui, Marion. C'était quelque chose qui était évident pour toi ?
Bah, c'est vrai qu'à Paris, on est un peu... biaisé par le fonctionnement où déjà on n'est pas trop en voiture et où du coup bah, nos courses on les fait pas en voiture, mais c'est vrai que c'est logique en fait. Jackie, c'est plus par... Ah ouais,
c'est logique. Hélène ?
Oui, c'est logique. Et puis nous, on vient de lancer un nouveau service. Ça me permet de le placer, c'est pas
Quelle
mal.
Quelle transition
ouais,
extraordinaire.
Incroyable. En fait, on a monté un nouveau service qui s'appelle Mini Ruche et qui permet en fait à des communautés de voisins de s'organiser pour aller chercher leurs produits à la ruche. Donc vous pouvez créer en fait une mini ruche dans votre immeuble, dans votre entreprise, dans votre école et organiser une livraison groupée. Donc voilà.
Ça fait plus qu'un véhicule pour tout un immeuble.
Voilà, exactement.
Ouais, c'est ça. Finalement, c'est vachement zéro waste tout ça, Hélène, non ?
Exactement, parce que très souvent, ce qu'on va me rétorquer sur le Zero Waste quand on est en dehors des grandes agglomérations, c'est oui, effectivement, il existe des magasins ou des producteurs Zero Waste, mais si je dois prendre ma voiture pour faire 30 km aller, 30 km retour afin d'aller là, finalement, il vaut mieux que je prenne quelque chose qui ne soit pas Zero Waste. Alors, encore une fois, ça peut se discuter suivant les produits, suivant si c'est sain, écologique, éthique, si ça vaut le coup, si le plastique va être recyclable ou pas. Néanmoins, c'est sûr que dans tous les cas, la mutualisation sera gagnant. Donc coopérons, comme le disait notre cher Darwin, la coopération sera toujours la stratégie gagnante.
L'entraide, l'autre loi de la jungle.
Et
toi,
puis,
Amélie...
C'est surtout beaucoup plus sympa de le faire ensemble.
Hein, enfin, Mélanie, j'allais te poser la question sur One Art Spot. Vous voyez de plus en plus fleurir ces initiatives d'alimentation locale, non ?
Ouais, il y a beaucoup d'initiatives locales qui voient le jour et on s'en réjouit parce que nous, on est très adeptes des spots locavores.
Ouais.
Donc ça, c'est une très bonne nouvelle.
Et bien évidemment, un des spots locavores que vous avez, j'imagine, déjà référencé, c'est la recyclerie, non ?
Là, bah oui, bien sûr. On est même venu faire un tournage ici. On a un peu tout vu aussi à la recyclerie, donc c'est sympa. Et je suis agréablement surprise quand j'entends qu'il y a encore de nouvelles initiatives comme la monnaie locale. Ça, par contre, je ne savais pas et c'est cool.
Le mot de la fin pour quelqu'un. Il me reste une minute et j'ai plus de questions.
Consommons local.
Et surtout, on mange tous au moins une à trois fois par jour. Et en fait, on peut vraiment agir en mangeant et en choisissant nos choix de consommation sur l'alimentation. Donc, faisons les bons choix.
Ouais, c'est bien ça. C'est de se dire que, effectivement, chaque nouveau repas est une occasion de s'améliorer. Oui, on ne va pas forcément tout le temps avoir une alimentation végétarienne ou végane au début, parce que c'est vrai que ça peut faire peur. Mais par contre, une journée, puis ensuite deux journées, puis ensuite plus, c'est toujours l'occasion de faire un bon geste. J'ai l'impression qu'Hélène, c'était quelque chose sur lequel vous vouliez rebondir, non ?
Oui, nous, notre slogan, c'est « Le pouvoir est dans notre assiette ». Donc voilà, c'est vraiment « Reprenons le pouvoir sur notre consommation et changeons le monde avec notre fourchette », ce qui n'est pas le plus désagréable, en fait.
Et tout est lié, hein, puisque au niveau des économies d'énergie, on parlait de pollution due à l'élevage bovin, on parle de gaspillage alimentaire. Hélène, tu le sauras peut-être mieux que moi, mais il me semble qu'il y a un tiers de tout ce que nous produisons qui est jeté à la poubelle, et il y a plus de la moitié de toutes les choses que nous faisons pousser qui vont pour nourrir les animaux. que nous
mangeons. Oui, c'est même 70% des terres agricoles mondiales qui sont utilisées pour l'élevage, et sans compter encore maintenant la folie des biocarburants. Donc tout ça, c'est des choses qui non seulement sont néfastes en soi, mais surtout souvent transitent par ces fameux porte-containers qui en plus alimentent une géopolitique néfaste avec des guerres, avec des possessions, des conflits armés et même voilà, des conflits d'intérêts autour de la possession de certains passages maritimes. Donc tant qu'à faire, ne pensez plus à tout ça, c'est trop compliqué, voilà. Consommez local, allez voir surtout d'où viennent les choses, comment ça se fait, et ainsi vous serez plus à même de faire les bons choix avec votre argent, et ça vaut tous les votes du monde.
Et ben voilà, ça sera vraiment le mot de la fin. Pour rappel, nous avons reçu dans cette émission Marion Bocahut de la Recyclerie, Hélène Binet pour La Ruche qui dit oui. Merci à tous deux pour vos interventions de qualité. Je remercie également la fine équipe Mélanie de One Art pour son bon plan, Hélène Dédaigné pour son focus zéro déchet, et Raphaël et Fabrice qui sont ici pour Rage.
Ça commence par nous.
Allez, dernière ligne droite, je tenais quand même une nouvelle fois à remercier l'équipe de la Recyclerie pour leur accueil plus que chaleureux. Moi, je suis hyper, hyper, hyper content d'avoir pu enregistrer cette émission Ça commence par nous dans cet écolieu que je trouve, moi, complètement aligné avec les valeurs que nous défendons depuis 25 émissions. Et oui, 25 émissions de Ça commence par nous déjà. Bien entendu, si vous voulez réécouter ou partager cette émission, vous pourrez retrouver le podcast sur le groupe Facebook de Ça commence par nous, sur rage.fr, mais aussi sur iTunes. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et on parlera de l'agriculture de demain, toujours en direct de la Recyclerie. Merci de nous avoir écoutés. Je vous dis samedi prochain, 13h. Salut.